2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bonjour à tous et bienvenue à Programme Double, un podcast qui est diffusé une fois ou deux semaines et dans lequel je vais vous présenter deux films qui sont reliés soit par une thématique, une franchise, un acteur, voire même un réalisateur. Le but de ce podcast n'est pas de vous dire ce que vous devez écouter, mais plutôt d'analyser les forces et les faiblesses de chacun des longs-métrages présentés, tout en vous racontant certaines anecdotes de la production, le tout enrobé d'une sauce très rétro.
Thunderball est le 9e livre de la collection James Bond de l'auteur britannique Ian Fleming, qui a été publié en Angleterre par la maison d'édition Jonathan Cape le 27 mars 1961 avec un tirage initial de plus de 50 938 copies qui furent vendues très rapidement. Il s'agissait ici de la toute première œuvre littéraire de la série à être écrite à partir d'un scénario de film qui ne fut jamais adapté sur le grand écran, et ce, jusqu'en 1965. Thunderball est né de la collaboration de cinq personnes, soit Ian Fleming, Kevin McClory, Jack Willingham, Ivar Bryce et Ernest Cuneo, mais c'est la participation de Fleming, McClory et Whittingham qui retiendra ici notre attention, puisque les trois hommes devront se rendre devant la Cour suprême afin de mettre au clair leurs droits au niveau des droits d'auteur du dit roman. Nous sommes en 1958. Kevin McClory, un cinéaste irlandais d'environ 32 ans, collabore alors avec un certain Ivar Bryce pour adapter une nouvelle de Leon Ware au cinéma. Les deux hommes créent alors une compagnie de production qu'ils nommèrent Xanadu Productions. Bryce est alors le producteur du film, tandis que McClory en est le réalisateur. Alors que le film est en train d'être monté, Bryce invite son ami Ian Fleming à une projection privée du film. Ce dernier est un écrivain et ancien espion britannique et se trouve être à l'origine du personnage littéraire de James Bond. C'est donc durant cette projection privée que les deux hommes discutent d'un projet d'adaptation cinématographique de l'agent 007. Cela faisait déjà quelques années que McClory avait dans l'idée de créer un film de chasse au trésor sous l'eau des Bahamas, et comme il avait vu le potentiel de James Bond après avoir lu quelques-uns des romans de Fleming, il fut très intéressé de se servir de cette idée pour créer avec Fleming une aventure inédite de l'agent secret. Au cours de l'année 1959, plusieurs personnes, dont Ernest Cuneo, l'avocat américain de Fleming, sont alors invitées à participer à plusieurs avant-projets pour une possible adaptation cinématographique sur Bond. Un scénario verra alors le jour, scénario qui sera alors intitulé « Longitude 78 West ». Vers la fin mai 1959, Fleming conçut un synopsis où un sergent russe prévoyait faire exploser des bombes atomiques sur une base militaire américaine. L'histoire est alors quelque peu modifiée par la suite, les Russes étant tout simplement remplacés par une organisation criminelle baptisée Spectre. Fin juillet 1959, des sociétés de production commandent un deuxième téléfilm de Bond, le premier étant Casino Royale sorti en 1954, dont la durée doit être de 90 minutes, Casino Royale ayant une durée maximale de 48 minutes. Fleming conçoit alors une histoire où l'antagoniste se nommera Enrico Largo et la Bond Girl, Domino Smith. McClory, alors associé à ce projet, propose ensuite de collaborer avec un autre écrivain, en plus de Fleming, et il choisit le scénariste britannique Jack Whittingham pour rejoindre la production en septembre 1959. Son travail consistera alors à adapter le scénario pour le téléfilm et le transformer en scénario pour le cinéma. Début octobre 1959, l'histoire est développée et introduit notamment le personnage de Sophia, une tueuse de l'argot, passant finalement du côté de Bond. C'est durant la mise en œuvre de ce projet que Fleming publiera une nouvelle aventure de James Bond intitulée Goldfinger. Le 4 janvier 1960, le créateur de Bond, Ian Fleming, se rend en Jamaïque dans sa résidence du nom de GoldenEye afin d'y entreprendre l'écriture de son nouveau roman et décide de transcrire une grande partie des éléments du scénario dans son roman d'Opération Tonnerre, et cela sans l'autorisation de ses collaborateurs. Lorsqu'il termine la rédaction de son roman, Ian Fleming ne citera pas le nom de ses deux autres collaborateurs, soit bien sûr Kevin McClory et Jack Whittingham. McClory et Whittingham apprennent rapidement ce qu'il a fait et décident de le poursuivre en justice. Du fait que 32 000 exemplaires de ce roman avaient déjà été expédiés dans diverses librairies, le juge décida d'accepter la publication de ce neuvième roman. À la suite d'un second procès, Fleming conservera les droits littéraires sur le roman et devra verser un montant punitif de 35 000 livres à McClory, qui lui conservera les droits cinématographiques du scénario écrit par les trois hommes. Sur les futures rééditions du livre, les noms de McClory et Jack Whittingham apparaîtront à titre de concepteurs scénaristiques aux côtés du nom de Ian Fleming. Entre-temps, Fleming avait vendu au scénariste canadien Harry Saltzman les droits des livres de James Bond afin qu'il puisse adapter les romans, à l'exception bien sûr de Casino Royale et de Thunderball, au cinéma. Saltzman s'associera alors à l'Américain Albert R. Broccoli et les deux hommes allaient signer le 21 juin 1961 un contrat de production avec la compagnie United Artists. Le roman Thunderball devait initialement servir de base à leur tout premier film, mais pour des raisons légales et financières, ils décidèrent alors d'utiliser Dr. No, qui sortira, lui, en salle en 1962. Après le succès des trois premiers films de la série James Bond, les producteurs Saltzman et Broccoli sont alors obligés de passer un accord avec McClory afin de pouvoir adapter le roman de Thunderball au cinéma en acceptant de le mettre au poste de producteur en échange d'une interdiction pour McClory de produire un remake de Thunderball et ce, durant les 10 prochaines années. Il faudra attendre jusqu'en 1983 pour que McClory ne crée ce remake de Thunderball avec le film Never Say Never Again, qui ramènera d'ailleurs l'acteur Sean Connery dans le rôle qui l'avait rendu célèbre, soit celui de l'agent 007, James Bond. Donc, préparez-vous un vodka martini mélangé au shaker, pas à la cuillère, et armez-vous de gadgets multiples, car je vous propose ici un voyage dans l'univers de l'espion britannique le 007 à travers ce qui est considéré par plusieurs comme étant les œuvres mouton noir de cette franchise incroyable, c'est-à-dire Thunderball en 1965 et Never Say Never Again en 1983.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Sneaking out to the drive-in? Why not take the kiddies along and save the expense of a sitter? Everyone enjoys the drive-in.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
And now, on with the show.
Thank you. James Bond est en action. Voyez ce que cela donne dans le dernier Ian Fleming. Opération Tonnerre.
Tu as vu ce que tu voulais voir, j'imagine. Maintenant, va retrouver tes amis et fais ton rapport. Dis-leur que je ne garde pas le menu fretin. Je le rejette à l'eau.
Opération Tonnerre, avec Claudine Auger. Jeune, splendide. Traquée, elle peut être dangereuse.
Quels yeux perçants vous avez.
Attends de connaître mes dents.
Adolfo Celli, aimable, silencieux. L'agent de mort du spectre. Luciana Paluzzi, aussi charmante à voir que mortellement dangereuse à rencontrer.
Vos amis, sans doute. Alors venez.
Double 07, la marque déposée du plus célèbre gentleman des services spéciaux qui a carte blanche pour tuer et licence de séduire. Double 07, label de qualité garantissant une action rapide en toutes circonstances.
Ça ne fait trop pas pour l'Angleterre.
De ravissantes rouquines. Des brunes dorées par le soleil, des blondes couleur de miel, les femelles Steel James Bond. Marque déposée du plus grand spectacle moderne.
Thunderball ou Opération Tonnerre est un drame d'espionnage britannique qui a été distribué en salle par les studios United Artists le 22 décembre 1965. D'une durée de 130 minutes, le film coûtera plus de 9 millions de dollars à produire, mais ramassera plus de 141,2 millions à travers le monde entier. Au niveau du poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène irlandais Terence Young qui nous avait donné Dr. No et From Russia with Love, ainsi que les films Safari, The Jigsaw Man et Red Son. Au poste de producteur, on y retrouve Clavin McClory, ce producteur irlandais, qui nous avait donné des films tels que The Boy and the Bridge et Never Say Never Again. Au niveau de la scénarisation, c'est le scénariste américain Richard Malibaum qui nous avait donné To Live and Let Die, Zarak et Battle on the Beach qui fera équipe ici avec John Hopkins, ce scénariste britannique qui nous avait donné Murder by Decree et The Virgin Soldiers. À la distribution, on y retrouve Sean Connery dans le rôle de James Bond, Claudine Auger dans le rôle de Domino, Adolfo Celli dans le rôle d'Emilio Largo, Luciana Paluzzi, Rick Van Nutter, Guy Dolman, Molly Peters, Bernard Lee, Desmond Llewellyn et Lois Maxwell. Une organisation criminelle internationale, nommée le Spectre, s'empare d'un avion anglais portant deux bombes atomiques. Par la suite, un message est adressé aux divers gouvernements du monde entier annonçant la destruction d'une ville importante à défaut du versement d'une forte rançon. C'est alors que l'agent secret 007 est mandaté par le gouvernement britannique pour retrouver les bombes, ce qui le forcera à se rapprocher du numéro 2 de l'organisation criminelle Spectre, Emilio Largo. Vivant dans le rêve de voir sa création apparaître au cinéma, Fleming avait une confiance envers les talents de réalisateur et de producteur de McClory en se basant sur la production du film de ce dernier, The Boy and the Bridge, qui sortira en salle en juillet 1959. Le long-métrage ouvrira d'ailleurs le Festival du film de Venise, mais sera malheureusement mal accueilli par la critique et sera un échec au niveau du box-office. Incertain des habiletés de McClory, Fleming, qui travaillait alors sur le scénario de Longitude 78 West avec ce dernier, commença à se retirer du projet, forçant alors McClory à embaucher un autre scénariste du nom de Jack Whittingham. En décembre 1959, Fleming rencontrera McQuarrie et Whittingham et lira la version de leur scénario qu'il approuvera tout en changeant le titre pour Thunderball. En janvier 1960, McQuarrie allait visiter Fleming à sa résidence de ce dernier en Jamaïque appelée GoldenEye. C'est à ce moment que Fleming annoncera ses intentions de délivrer le scénario à la compagnie MCA en recommandant fortement que McQuarrie agisse à titre de producteur uniquement. Cependant, entre janvier et mars de cette même année, Fleming écrira son roman Thunderball, se servant de la version finale du scénario qu'il avait écrit avec l'aide de Whittingham et McQuarrie. En mars 1961, McQuarrie lut une copie du roman et décida alors, avec Whittingham, de poursuivre Fleming à la Haute Cour de Londres afin de faire arrêter la publication du roman. Le juge acceptera cependant que la publication de Thunderball se poursuive, mais laissera une porte ouverte pour que McQuarrie puisse intenter une nouvelle poursuite, cette fois-ci pour plagiat, ce qui surviendra le 19 novembre 1963. La cause sera alors entendue durant plus de 3 semaines, période durant laquelle Fleming eut une attaque cardiaque. Sur les suggestions de son ami et avocat Ivar Bryce, Fleming offrira un deal à McQuarrie dans lequel ce dernier obtiendra les droits cinématographiques pour le scénario de Thunderball ainsi qu'une grosse compensation financière, alors que Fleming conservera les droits au niveau de l'œuvre littéraire. Le 12 août 1964, soit 9 mois après la conclusion du procès, Fleming subira une nouvelle crise cardiaque et perdra la vie à l'âge de 56 ans, alors qu'il était encore en plein procès contre Jack Whittingham, qui souhaitait lui aussi toucher une compensation. Thunderball devait être à l'origine le tout premier film à être réalisé par les producteurs Broccoli et Saltzman et leur compagnie Eon Production pour la saga de James Bond. Mais les problèmes juridiques entourant Thunderball forcera les deux producteurs à se tourner en direction de Dr. No, qui obtiendra alors un succès mondial. Il faudra attendre, après les succès de From Russia with Love et Goldfinger, pour voir le projet de Thunderball revenir sur la table. Craignant que McQuarrie ne sorte un film pour profiter du succès de James Bond, les producteurs Saltzman et Broccoli signent une entente qui donnera le poste de producteur unique à McQuarrie et positionnera les noms de Broccoli et Saltzman au poste de producteur exécutif. Pour le rôle de Domino, Broccoli était intéressé par l'actrice britannique Julie Christie, mais déçu de sa rencontre avec cette dernière, il tournera alors son attention vers Raquel Welch, qui ne put accepter l'offre de Broccoli, cette dernière ayant signé avec le producteur Richard Zanuck pour jouer un rôle important dans le film de la 20th Century Fox, Fantastic Voyage. C'est alors que Saltzman et Broccoli tournèrent leur attention vers l'ancienne Miss France, Claudine Auger, qui obtiendra le rôle. Cependant, la voix de l'actrice fut remplacée par celle de Nikki van der Zyl, tout comme l'acteur Adolfo Celli, qui interprétait lui le rôle du vilain Emilio Largo, qui subira également le même sort alors que sa voix sera remplacée par celle de Robert Yetti. L'actrice Molly Peters verra également sa voix remplacée par celle d'une autre actrice, soit Barbara Jefford. Suite au succès de Goldfinger, le réalisateur Guy Hamilton se verra offrir la réalisation de ce nouveau long-métrage, mais refusa le poste, se considérant alors totalement vidé par son expérience sur la production de Goldfinger. On approchera alors le réalisateur des deux premiers films de la série de 007, soit Terence Young, qui acceptera alors le poste, celui-ci ayant déjà admis au producteur Harry Saltzman durant la production de Dr. No qu'il était fortement intéressé à adapter pour le grand écran les romans de From Russia with Love et surtout celui de Thunderball. Possédant un budget correspondant au triple des deux premiers films réunis, Young allait débuter le tournage de sa nouvelle production le 16 février 1965 à Paris, se rendant par la suite aux Bahamas, endroit où fut pratiquement tourné le reste du film. La séquence iconique d'introduction de tous les débuts de films de James Bond, soit le Gun Barrel, sera pour la toute première fois interprétée par l'acteur jouant le personnage de James Bond dans le film, par conséquent ici l'acteur Sean Connery. Dans les 3 premiers opus, ce fut le cascadeur Bob Simmons qui interprétait alors le personnage de Bond. Toutes les séquences tournées dans la piscine de Largo incluaient de véritables requins. Réalisant le danger que cela représenterait pour lui, Sean Connery insista pour que le designer Ken Adams construise des mini-murs de plexiglas d'au moins 3 pieds de haut à l'intérieur de la piscine. Mais les barrières en question n'étant pas fixées à quelque chose de solide, un des requins réussira à passer les défenses protégeant l'acteur, forçant Connery à quitter rapidement la piscine alors que le requin se dirigeait dans sa direction. D'ailleurs, Toutes les séquences montrant le visage horrifié de Bond lorsque ce dernier se retrouve face à un requin furent des séquences montrant le visage réellement horrifié de Sean Connery à chaque fois que les requins traversaient cette mini-barrière de protection. Le jetpack que Bond utilise lors du pré-générique était un appareil fourni par le US Air Force. Construit par Bell, il était capable de maintenir un homme dans les airs pendant seulement 21 secondes. Le fait que Connery mette un casque de protection lors de la séquence a dû être rajouté par le réalisateur car l'ingénieur qui pilotera le jetpack durant la courte séquence refusait de réaliser cette dernière sans le casque de protection et il était l'un des deux seuls hommes dans le monde entier à être qualifié pour piloter l'engin. D'ailleurs, la majorité des effets visuels étaient véridiques, soit le siège éjectable de la voiture Aston Martin, ainsi que le bateau en deux sections du vilain Emilio Largo, le Disco Volante. Le concepteur des effets spéciaux John Steers utilisera par le fait même un type expérimental de carburant pour fusée et l'utilisera pour la destruction du yacht de Largo. Ignorant la véritable puissance de ce combustible, l'explosion du bateau provoquera des dégâts à plus de 30 000 de l'explosion en faisant éclater les vitres de résidence situées le long de Bay Street à Nassau. John Steers remportera l'Oscar pour les effets visuels de Thunderball. Il ignorait avoir été sélectionné jusqu'à ce qu'il reçoive la statuette chez lui. Fait amusant, après avoir visionné le long-métrage, les militaires britanniques furent intéressés aux mini-respirateurs sous-marins, eux-mêmes travaillant sur un tel engin depuis plusieurs années. Voulant savoir comment le concepteur avait réussi à créer un tel engin, telle ne fut pas leur déception d'apprendre que cet appareil n'était qu'un accessoire fait de deux capsules de CO2 et d'un étui à cigare en aluminium. La séquence finale de la confrontation sous-marine entre les hommes de Largo et ceux de Bond fut réalisée par Clifton Peer et fut chorégraphiée par Rico Browning, qui avait travaillé en 1951 sur le film de science-fiction Creature from the Black Lagoon. Lamar Boren, un expert en photographie sous-marine, fut engagé pour tourner toutes les séquences sous l'eau en seulement 6 jours. Toutes les répétitions de la bataille sous-marine se déroulèrent sur la terre ferme, plus précisément sur les parkings d'un centre commercial. Plus d'une 60aine de plongeurs furent utilisés pour cette séquence. Dernier petit fait important, il s'agira du seul film de la série James Bond où nous verrons ensemble les 9 agents 00 durant un debriefing top secret au MI6. Vers la fin de la production, Connery connaîtra des difficultés avec les journalistes alors que celui-ci vivait des problèmes dans son mariage avec l'actrice Diane Cilento, avec qui il était marié depuis seulement 32 mois. Ceci sera le début de la fin pour Connery et le personnage de Bond, Connery étant irrité par ce manque d'intimité dans sa vie personnelle. Au moment de la sortie du film en 1965, la popularité des films de James Bond avait inspiré divers films et téléséries tels que The Man from U.N.C.L.E., Iron Man Flynn, la série de films du personnage de Matt Helms avec Dean Martin et I Spy mettant en vedette Robert Culp et Bill Cosby. Le film Opération Tonnerre ou Thunderball sort au cinéma à la fin 1965 et connaît l'un des plus gros succès de la franchise. En effet, aujourd'hui, c'est le troisième plus grand succès de la franchise derrière Skyfall et Spectre en 2015. Le film obtiendra la 2e place au box-office en 1966, tout juste derrière le Docteur Zhivago. Le film remportera l'Oscar en 1966 pour les meilleurs effets visuels. Il remportera également le Goldeneye Line One en 1966, ainsi que le Laurel Award en 1966 pour le meilleur film d'action dramatique et la meilleure performance dans un film d'action pour Sean Connery, et sera également nominé au British Academy Film Award en 1966 pour la meilleure direction artistique britannique en couleur pour Ken Adam. Sans oublier le prix Edgar Allan Poe en 1966 pour le meilleur film étranger. Du côté des points forts, eh bien Sean Connery nous donne ici un James Bond beaucoup plus humain et moins indestructible, celui-ci n'hésitant pas à demander de l'aide lorsque sa vie est en danger, qu'il nous montre un regard de terreur lorsque ce dernier se retrouve face à face avec la mort qui prend ici la forme de requin. De plus, on sent ici que l'acteur s'amuse beaucoup plus dans son rôle que dans les films précédents. Le développement de l'histoire ici est bien traité et le scénario, dont l'histoire est quand même complexe, se suit avec une certaine facilité, ne perdant jamais son auditeur en lui donnant l'impression qu'il manque de quoi au niveau de l'histoire. La direction photo pour les séquences aquatiques est tout simplement superbe. Encore une fois, James Bond égale innovation au niveau du cinéma, puisqu'il s'agira de la toute première fois que des combats aquatiques seront filmés à cette ampleur. Les intentions diverses qui nous sont présentées ici donnent à l'ensemble un air de science-fiction qui n'est pas désagréable, étant donné le ton d'invraisemblance du récit. À part certains personnages, la distribution est excellente et le visuel est époustouflant pour l'époque. Bond, démontrant sa supériorité dans le choix de ses emplacements et de sa recherche toujours importante pour tirer profit du meilleur qu'ont à offrir les différents endroits de tournage, et ce, au niveau international. Du côté des points faibles, eh bien, le vilain n'est jamais une véritable menace pour Bond et l'acteur qui l'interprète ne parvient jamais à être un adversaire de taille pour l'agent 007. D'ailleurs, le suspense dans Temps de bord est à peu près inexistant, les auteurs mettant plus l'accent sur l'aspect spectaculaire des exploits de Bond. Le début du film est, tant qu'à moi, un peu trop lent, mais on sent que cette aventure de Bond est plus terre-à-terre, ce qui explique ce choix des scénaristes et du réalisateur. Bond, ici, nous est présenté comme un véritable prédateur sexuel, ce qui est amusant car on peut voir un lien entre lui et le vilain Émile Largot. Alors que les créatures de l'argot se lancent en direction de leur proie sous l'eau, eh bien, James Bond ici s'attaque à tout personnage féminin tel un requin à deux pattes, frôlant par moments le viol lorsque ce dernier force la femme visée par son intention à coucher avec lui. Même si cette dernière lui dit non à plusieurs reprises, quelque chose qui ne passerait vraiment plus aujourd'hui. Le montage du film aurait pu être meilleur, notamment durant la confrontation finale où le combat peut sembler interminable et répétitif. Le scénario, lui, fait place par moments à des invraisemblances majeures. Des exemples, cette rencontre ultra-secrète avec tous les agents 00 qui se fait devant une fenêtre gigantesque dans laquelle on peut voir un building avec des fenêtres situées directement en face, ce qui pourrait permettre à des espions d'en apprendre plus sur les actions de MI6. Ou encore ce moment où un homme qui conduit sa voiture tire un coup de feu de l'intérieur de son véhicule sans même faire exploser son pare-brise alors que ce dernier se trouve entre le conducteur et sa cible. Du côté musical, le compositeur britannique John Barry est de retour pour une troisième fois à la composition de la bande originale d'un film de la franchise de 007. Il est à noter que la chanson du générique d'entrée était à l'origine Mr. Kiss Kiss Bang Bang, qui était écrite par John Barry et Leslie Bricusse et qui devait être chantée par Shirley Bassey. Malheureusement, lorsque le générique de Thunderball fut rallongé, on demandera à Bassey de revenir, ce qu'elle ne put faire, et alors on demandera à la chanteuse Dionne Warwick de rechanter la dite chanson avec une plus longue introduction en ajoutant de l'orchestration au début de celle-ci qui devait durer jusqu'au titre Thunderball. Apprenant la chose, Bassey poursuivra alors les producteurs, ce qui empêchera alors cette nouvelle version d'être utilisée. C'est finalement United Artists qui va régler le problème en insistant pour que le titre de la chanson soit le même que le titre du film. Donc, John Barry va réécrire dans l'urgence la nouvelle chanson « Thunderball » avec l'aide du compositeur Don Black. La chanson sera alors interprétée par le gallois Tom Jones, qui tombera pratiquement sans connaissance lors de l'enregistrement de la dite chanson lorsque ce dernier chantera la note finale qui durait plus de 9 secondes. Lorsque la bande originale en vinyle fut mise en marché en 1965, cette dernière ne contenait presque pas de musique de la seconde moitié du film, la raison étant que le compositeur John Barry était en train de recomposer les musiques à cause du changement de la chanson-titre. Le vinyle sortira en 1965 sous l'étiquette United Artists Records, alors que le CD, lui, sortira en 1988. Une édition plus longue, qui inclut 6 tracks bonus, sortira en CD le 25 février 2003. Il est à noter que plus de 25 minutes de musique de film n'ont toujours pas été mises sur le marché. Voici donc la chanson « Temps de bord ».
Walk. He acts while other men just talk.
fight goes on and on and on. But she thinks that the fight is worth it all. So he strikes.
Intermission. Rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank's sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
Now pay attention. Ordinary watch. With a remote-controlled bottle opener. Ordinary koozie.
Oh!
Electrical impulse allows only one person to drink it. Briefcase. Choose a Heineken in 0.4 seconds.
Q, why would James Bond need all these?
They're not for him. They're for my holiday.
Chalet, I give you Christmas surprises.
Fine bird and a good stuffing. Perfect. You certainly know how to satisfy a man.
Wait till you see what's in my stockings. You like?
Most impressive. And now I have something for you.
Champagne.
With more food gifts and decorations this year, Tesco have made Christmas easier, so you'll have more time to relax.
Oh, Roger.
Tesco, every little helps.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Is James Bond, Agent 007. Never say never again.
My name's Bond.
Oh, you're Mr. Bond. I believe I'm having you in half an hour.
Oh, splendid. Your room or mine?
Have you, Mr. Bond?
You're marvelously well equipped.
Thank you, James. So are you.
Good to see you, Mr. Bond. Things have been awfully dull around here. I hope we're going to have some gratuitous sex and violence.
I certainly hope so, too.
Bond? The game is over.
Sean Connery is Ian Fleming's James Bond in Never Say Never Again.
Never Say Never Again ou Jamais Plus Jamais est un drame d'espionnage britannique, américain et allemand distribué par les studios Warner Brothers le 7 octobre 1983. D'une durée de 121 minutes, ce film, qui coûta plus de 36 millions de dollars, ramassera plus de 160 millions de dollars au box-office international. Il est à noter qu'une version Director's Cut existe à 134 minutes. Le film sera réalisé par le metteur en scène américain Irvin Kershner, qui nous avait donné Les yeux de Laura Mars ou Eyes of Laura Mars et Star Wars The Empire Strikes Back. Nous avons au niveau du poste de producteur, le producteur irlandais Kevin McClory, qui nous avait donné bien sûr Thunderball et The Boy and the Bridge, et Jack Swartzman, le producteur américain, qui nous avait donné Rad et Bread and Breakfast. Au niveau de la scénarisation, c'est le scénariste américain Lorenzo Semple III qui nous avait donné Parallax View et Three Days of the Condor qui s'est occupé ici de l'écriture du scénario. Dans la distribution, on y retrouve Sean Connery, Klaus Maria Brandauer, Max von Sydow, Barbara Carrera, Kim Basinger, Bernie Casey, Alec McGowan, Edward Fox, Pamela Salem et Rowan Atkinson. Une organisation criminelle internationale, du nom de Spectre, s'empare de deux engins nucléaires américains. Elle menace ensuite de faire sauter deux points stratégiques à moins que le monde libre ne lui paie une énorme rançon. C'est alors que l'agent secret James Bond, un peu vieilli mais toujours solide, sort d'une demi-retraite pour s'occuper de l'affaire. Tout en déjouant les pièges d'une redoutable tueuse, Bond parvient jusqu'au repère de l'Argo, le criminel chargé de l'opération. Il décèle l'emplacement des bombes, mais sera-t-il capable de les neutraliser? C'est en 1976 que Kevin McClory annoncera son intention de produire un nouveau long-métrage de l'agent 007 qui s'intitulerait Warhead et qui serait, bien sûr, basé sur le roman de Thunderball. Rapidement, les administrateurs de la succession de Ian Fleming et United Artists chercheront à empêcher McClory de mettre à jour ses plans en le poursuivant. McClory gagnera sa cause devant les tribunaux. Quelques années plus tard, le projet changera de titre et deviendra James Bond of the Secret Service. Mais lorsque McClory s'associera avec le producteur Jack Swartzman, McClory embauchera alors le scénariste Lorenzo Semple Jr., qui retravaillera le scénario écrit précédemment par le scénariste Len Deighton. De son côté, McClory approchera l'acteur Pierce Brosnan pour le rôle de James Bond, mais aucune entente ne surviendra entre les deux hommes. George Lazenby, qui avait interprété le personnage de Bond dans On Her Majesty's Secret Service, fut également approché, mais refusa le poste. En 1978, Sean Connery fut contacté par Jack Swartzman pour reprendre le personnage de Bond, rôle qu'il n'avait pas occupé depuis plus de 12 ans. Connery se verra alors offrir la modique somme de 3 millions de dollars, l'approbation de la distribution et du scénario, ainsi qu'un pourcentage des recettes du box-office. Durant cette période, on prévoyait mettre le film en salle pour l'année 1980, ce qui le mettrait directement en compétition avec le film Moonraker. Mais de nouveaux problèmes légaux concernant le titre Warhead allaient de nouveau ralentir la production, reportant la sortie du film en 1983, l'opposant ainsi au film Octopussy. Un moment impensable dans l'univers du cinéma, soit celui d'une confrontation au sommet du box-office entre Bond et Bond, entre Roger Moore et Sean Connery, entre un acteur écossais armé d'une moumoute et d'un Britannique à peine plus frais que son martini. Connery, mécontent de la réécriture du scénario de Semple, demandera alors au scénariste Tom Mankiewicz, qui avait travaillé sur le scénario de Diamonds Are Forever, de revenir rafraîchir le script, mais Mankiewicz, fidèle à Albert R. Broccoli, refusera l'offre. Connery se tournera alors vers les scénaristes britanniques Dick Clements et Ian Lafrenet pour apporter les modifications nécessaires. Le titre de la production subira alors un dernier changement lorsque la femme de Connery rappela à son mari que ce dernier avait précisé durant la production de Diamonds Are Forever qu'il n'interprétera jamais plus le personnage de 007 dans sa carrière, comme quoi il ne faut jamais dire plus jamais, titre qui demeurera alors. Les producteurs mettront d'ailleurs une note pour la contribution de Mme Connery au générique de la fin du film qui se lira comme suit « Title Never Say Never Again by Micheline Connery ». Du côté de la distribution, c'est Connery qui proposera l'acteur Klaus Maria Brandauer pour le rôle du vilain Maximilian Largo. Lorsque le réalisateur Irvin Kershner sera embauché, suite au refus du metteur en scène Peter Hunt de réaliser le film, ce dernier choisira l'ex-modèle Barbara Carrera pour interpréter le personnage de Fatima Blush, nom qui fut créé lors des premières versions du scénario de Thunderball en 1965. La prestation de Carrera dans ce film lui vaudra une nomination aux Golden Globe Awards comme meilleure actrice de soutien, qui fut remportée cette année-là par Cher pour son rôle dans Silkwood. Finalement, c'est Micheline Connery, la femme de Sean, qui fit la suggestion à son mari de l'actrice américaine Kim Basinger pour le personnage de Domino suite au refus de l'actrice Dalila Di Lazzaro, qui était originellement vue pour ce rôle. Pour le personnage de Felix Leiter, qui sera interprété ici pour la première fois par un acteur afro-américain, c'est à nouveau Connery qui contactera le comédien Bernie Casey, qui interprétera le rôle sur le champ. Il est à noter également qu'il s'agit ici de la toute première prestation sur le grand écran de l'acteur Rowan Atkinson, que le public connaît plus spécialement pour son rôle de Monsieur Bean à la télévision britannique et de ses deux satires de l'univers de James Bond, soit la franchise Johnny English. Le tournage du film débutera le 27 septembre 1982 sur la Côte d'Azur et durera plus de deux mois avant de se rendre à Nassau, aux Bahamas, à Clifton Pier, emplacement où furent également tournées certaines scènes de Thunderball en 1965. La production connaîtra plusieurs embûches alors que Connery et l'assistant réalisateur David Tomlin allaient prendre plusieurs des responsabilités du producteur Jack Schwartzman, ce dernier étant un excellent homme d'affaires, mais ne possédant aucune expérience du domaine cinématographique. D'ailleurs, la production allait manquer d'argent à certains moments, ce qui forcera Schwartzman à payer le reste de ses propres poches, ayant sous-estimé les coûts de production de la réalisation du long-métrage. Cela amènera énormément de tensions entre Schwartzman et Connery, qui par moments ne se parlaient même pas sur le plateau de tournage, Connery allant même jusqu'à dire que le tournage ressemblait parfois à une opération style Mickey Mouse. Le responsable des combats d'arts martiaux était un jeune Steven Seagal, qui faisait ses débuts dans l'arrière-scène d'Hollywood. Durant la pratique d'une des séquences de combat à être filmée, ce dernier allait blesser Sean Connery en lui cassant un poignet. C'est le réalisateur Rico Browning qui dirigea de nouveau les séquences sous-marines, rôle qu'il avait déjà tenu dans le film original de Thunderball. Il s'agira ici du dernier James Bond à utiliser le terme « Spectre » jusqu'au film de 2015 « Spectre » et le seul Bond de la série à ne pas posséder la fameuse introduction du Gun Barrel au début du long-métrage. Never Say Never Again ouvrira en salle le 7 octobre 1983 dans plus de 1550 cinémas, amassant une somme record pour l'époque de presque 11 millions de dollars pour une fin de semaine de 4 jours durant un mois d'octobre et dépassant le box-office de 4 jours de Octopussy qui lui avait amassé 8,9 millions en juin de cette même année. Cependant, Octopussy allait mieux performer en général et terminera son box-office mondial avec des revenus de plus de 187,5 millions, alors que Never Say Never Again allait amasser seulement 160 millions globalement, faisant de Roger Moore le grand gagnant de la confrontation entre lui et Connery, et ce malgré le fait que les analystes à l'époque avaient gagé sur Connery plutôt que sur Moore. Petite anecdote, Connery demandera à Roger Moore de faire un petit caméo à la fin de Never Say Never Again, mais malheureusement, cela ne se fera pas, Moore et Connery étant incapables de convaincre le réalisateur et les deux producteurs. Durant les années 1990, McClory cherchera à nouveau à refaire un autre remake de Thunderball qui mettrait en scène cette fois-ci l'acteur Timothy Dalton, celui-là même qui avait interprété James Bond dans The Living Daylights et License to Kill. Le film, qui devait être intitulé Warhead 2000 AD, fut rapidement bloqué. En 1997, les studios Sony Pictures rachetèrent les droits cinématographiques de McClory avec l'intention de produire une nouvelle série de films de 007, cette compagnie étant également propriétaire des droits cinématographiques de la nouvelle de Ian Fleming, Casino Royale. Une guerre légale surviendra alors entre les studios Sony et MGM et le tout se réglera hors cours alors que Sony revendra pour 15 millions de dollars ses droits cinématographiques des deux nouvelles, soit celle de Thunderball et Casino Royale, mettant ainsi fin aux troubles légaux reliés à cette franchise d'espionnage. McClory cherchera à nouveau à produire un nouveau film de Bond, mais fut bloqué au cours de 2001 et décédera finalement en 2006 à l'âge de 82 ans des suites d'une hémorragie cérébrale. Du côté des points forts de Never Say Never Again, eh bien, 12 ans après Diamonds Are Forever, Sean Connery reprend avec énergie le personnage de Bond. D'ailleurs, ce dernier est en pleine forme pour son âge et semble s'amuser dans le film, une très grande différence avec sa dernière prestation du rôle en 1971. Toujours au niveau de la distribution, tous les interprètes jouent dans le ton voulu d'outrance fantaisiste. Barbara Carrera est excellente en vilaine, alors que Basinger est véritablement surprenante ici en Bond Girl. Le scénario fait montre d'une certaine invention sur l'histoire originale et apporte des changements appropriés pour remettre cette histoire au goût du jour. Les dialogues sont ici par moments croquants et la réalisation des scènes d'action est imaginative, sans oublier cette première partie du film, nous présentant un Bond courbaturé qui doit se remettre en forme sur l'ordre de ses patrons, qui est ici tout simplement amusant. La direction photo est également superbe, le film nous présentant de nouveau des emplacements dont le visuel est tout simplement époustouflant. Du côté des points faibles, le film a l'air d'une production petit budget par moment avec des effets spéciaux simplistes et mal orchestrés avec un visuel de bas niveau. De plus, ce film est loin d'avoir un style Bond conventionnel, ce qui pourrait déranger en général les amateurs de ce type de film. Au niveau musical, la trame sonore de Michel Legrand est loin de la profondeur de celle de John Barry et on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un film de Bond. Rowan Atkinson et Klaus Maria Brandauer ne sont pas dans leur environnement et leur prestation inégale est un moins au film. Atkinson apportant un ridicule qui ne va définitivement pas avec le reste du long métrage, enlevant même toutes sortes de crédibilité au film, alors que Maria Brandauer n'apporte nullement une impression de véritable compétition à Bond comme vilain ici. De plus, Pamela Salem nous donne ici une Miss Moneypenny totalement sotte, loin d'égaler la prestance de Lois Maxwell dans ce rôle. Finalement, la conclusion est véritablement décevante, le film se terminant sans grand danger pour notre héros et d'une façon si hâtive qu'on a l'impression qu'on a manqué d'argent avant la fin du tournage de la séquence finale. Comme je l'ai expliqué un petit peu plus haut, c'est Michel Legrand qui s'occupe de la trame sonore musicale de Never Say Never Again, lui qui va prendre la place du compositeur John Barry, qui fut à l'origine invité à réaliser la trame sonore de Never Say Never Again, mais par respect pour le producteur Albert Broccoli, refusera l'offre. James Horner fut également approché par Kirchner et Schwartzman, mais Connery portera son droit de veto pour bloquer le compositeur, et c'est finalement la rencontre entre Connery et le compositeur français Michel Legrand qui fera en sorte que ce dernier s'occupera de la musique du film. La chanson thème sera écrite par Michel Legrand et le couple Allen et Marilyn Bergman et sera chantée par Lanny Hall suite au refus de la chanteuse Bonnie Tyler qui détesta la chanson. Je vous présente donc ici la chanson de Never Say Never Again.
Never say never again. Nothing I've ever known, but from all that I hear, forget about long-range plans, 'cause this man's got his own. To get mixed up with a man who says never, maybe big trouble. Your attitude or your mood.
Au niveau des cotes artistiques, Thunderball ou Opération Tonnerre est coté 4 par Mediafilm. Moi également, je le cote 4. Au niveau de la régie du cinéma, le film est coté général. Moi, j'y vais également avec une cote pour tous, avec quelques séquences de violence. Du côté de Never Say Never Again, le film est également coté 4 du côté de Mediafilm. J'y vais également avec une cote 4 au niveau du contenu. Eh bien, le film est coté par la régie du cinéma général. J'y vais également pour une cote pour tous avec également quelques séquences de violence. Au niveau de la sortie en DVD, du côté de Thunderball, eh bien, le film est disponible en DVD et en Blu-ray disc, les deux dans les deux langues, soit français et anglais, alors que le film Never Say Never Again est disponible en DVD en version anglaise seulement, ou sinon vous avez le coffret double DVD Blu-ray qui comprend à ce moment-là la version française et la version anglaise du film en question, avec bien sûr plusieurs documentaires. C'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Juste vous rappeler, si des fois vous voulez nous suivre, vous n'avez qu'à vous inscrire à la page Facebook de Programme Double. À ce moment-là, vous serez averti à toutes les deux semaines de la journée où sera diffusée notre nouvelle émission. Ou encore, vous pouvez tout simplement aller également sur la page web de fantasticaradioweb.com dans laquelle vous allez avoir une section podcast. Si vous cliquez sur cette section podcast, vous allez voir plein de sous-sections, dont une qui va s'intituler Programme Double. Lorsque vous cliquez là, vous allez tomber sur la page officielle de Programme Double, sur laquelle vous allez trouver toutes les explications au niveau des cotes artistiques que je donne au film, en plus d'avoir un résumé de qu'est-ce qu'est le podcast, mais surtout, vous allez avoir tous les liens, que ce soit les liens pour la page Facebook, les liens pour l'adresse email, si vous avez des fois des suggestions de films que vous aimeriez que je parle, ou encore des commentaires à faire. Et finalement, eh bien, vous avez le lien qui vous amène sur l'application de Programme Double, une application où vous serez capable d'aller voir tous les films dont je vous ai parlé depuis la création de ce podcast. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours suivre également mon autre podcast qui est Fantastica Radio Web, un podcast où on parle de différentes passions, une émission de 3 heures, contrairement au podcast de Programme Double qui, lui, n'est qu'un maximum de 1 heure à tous les 2 semaines. Donc, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.